caution générale qui, au cours d'une retraite spirituelle, ce qui se ferait, je suppose, au cours d'une retraite spirituelle, par exemple, l'exercice de Saint-Ignace, serait-elle un exercice qui nous donnerait l'occasion de faire un amnèse, nous éveiller à cette pratique fondamentale qui penserait-on conduit à acquérir les vertus d'humilité, de patience, etc. Bon, c'est très bien, tu poses une question comme ça, mais il faut être plus précis dans la question, n'est-ce pas? Mais je comprends, je crois que je comprends ce que ça veut dire. Si on fait une retraite spirituelle d'exercice, et à l'occasion de laquelle les retraites et les exercices servent à faire... C'est une retraite qu'on fait pas tellement pour se recueillir, pour rentrer, pour se laisser enseigner, mais c'est une retraite qui sert... Il y a plusieurs types de retraites, n'est-ce pas? Il y a des retraites où on médite une doctrine qu'on ne connaît pas pour pouvoir rentrer dedans et devenir contemplatif. Il y a des retraites du style... Donc, exercice spirituel de Saint-Ignace, où c'est une méditation, où on essaie de rentrer dans la connaissance de soi pour pouvoir faire un choix, pour pouvoir changer d'orientation et faire un bon choix spirituel, intérieur, un choix aussi de vie. Et c'est vrai qu'à l'occasion de ces types de retraites, qu'on appelle les retraites d'exercice, qui sont très utiles, quelquefois. C'est vrai, faire les retraites d'exercice. Moi, quand par exemple, quand j'étais jeune, je faisais beaucoup de retraites avec des enseignements. Puis, c'était très bien, faire des retraites avec des enseignements. Mais, arrivé à 30 ans, on était toujours au même endroit, si vous voulez, du point de vue des choix. Des engagements. On a quelquefois beaucoup de mal à se saisir soi-même dans sa liberté de choix. Parce qu'il y a une ignorance sur soi, il y a une méconnaissance de soi. La connaissance de soi, d'après les pères, est quelque chose de très important pour pouvoir. Puisque l'amour de Dieu est une communion, donc de connaître Dieu, c'est très bien, mais quand on ne se connaît absolument pas soi-même, la communion est difficile. Alors on a du mal à faire des choix. Alors les exercices, ça sert à ça. Et c'est vrai qu'à l'intérieur de Saint-Ignace, c'est extraordinaire, à partir du moment où on fait les exercices d'élection, par exemple, qui durent 33 jours, c'est le hachoir, hein. Les exercices de Saint-Ignace, hein, c'est vraiment... On ne devrait pas dire le hachoir, sinon ça va vous faire peur. C'est une échelle. C'est une échelle. Et on ne passe pas à l'échelon supérieur si on n'est pas passé déjà à l'échelon inférieur. C'est très personnel, c'est très adapté à chaque personne. C'est bien qu'au terme, quelque part, il y a un discernement qui se fait, une vision qui se fait, une lumière qui se fait sur son identité surnaturelle, son identité divine. Vous voyez ? Et ça permet de faire un choix sous le regard de Dieu et en communion avec la volonté de Dieu. Vous voyez ? Faire rejoindre ma volonté d'innocence avec la volonté divine. Parce que moi je suis perdu dans ma volonté propre. Et je suis faible, je suis inhibé, j'ai plus mes repères, j'ai plus de force, et voilà. Alors on fait les exercices de Saint-Ignace, et systématiquement, à l'occasion des exercices de Saint-Ignace, on fait la confession générale. Donc voilà la question, donc c'est la confession générale, au cours d'une retraite spirituelle, comme par exemple les exercices de Saint-Ignace, serait-elle un exercice pour nous permettre de faire anamnèse, hein? Mais bien sûr. Et bien sûr. Mais donc on fait une amnèse de la confession générale à l'intérieur des exercices de Saint-Ignace, c'est dans la première semaine d'ailleurs qu'on le fait. C'est le 7e échelon sur les 33, n'est-ce pas? Bon. On fait la confession générale. Voilà. Et si on n'y arrive pas, on passe pas. Quelquefois, il y a des gens qui, pendant l'exercice d'Athénias, au bout de 10 jours, ils n'ont pas encore réussi à faire leur confession générale. Ça bute, j'y arrive pas. Je n'arrive pas à faire anamnèse. Ah ben tant pis. Parce que quand on dit 33 jours, c'est 33 degrés, quoi. Hein? Attention. Donc si on bute au 7e, pendant 33 jours, bon ben vous revenez faire une retraite de 33 jours, on espère, quoi. Normalement. Normalement. Enfin, une fois sur deux, on fait les 33 jours complets, hein, n'est-ce pas? Enfin, si on a un bon directeur d'exercice. Hein. Mais ordinairement, ne vous mettez pas entre les pattes d'un mauvais directeur d'exercice. Voilà. Oui, il faut faire un amnèse, tout à fait. Un amnèse, parce qu'il faut arriver à retrouver le grand fil rouge qui commence dans notre sainteté initiale. On a dit un oui d'éternité, il faut retrouver cette force. D'ailleurs, quand on est sans force, on n'est pas vraiment rentré dans l'anamnèse. Hein, on n'est pas rentré. Puisque l'anamnèse nous fait rejoindre la source des forces, qui est dans la paternité physique de Dieu sur nous. N'est-ce pas? Donc, c'est ce qu'on a vu hier. Comment petit à petit apprendre à faire anamnèse, hein? Je crois que c'est important. C'est important. C'est certainement très très important. Donc nous éveiller à cette pratique fondamentale. Mais merci, c'est bien. Qui penserait-on conduit à acquérir les vertus de force, d'humilité? Tout à fait, bien sûr. Comment voulez-vous... voyez, c'est, donc je vous rappelle les trois vertus fondamentales qui sont des vertus... d'une humanité forte dans sa grâce d'origine, c'est ce que je vous disais hier. Donc l'obéissance, l'humilité, l'obéissance de l'humilité et la confiance. Selon le mode dans lequel nous avons regardé ces trois vertus hier. Je ne parle pas d'une humilité... vertu d'humilité qu'on essaye d'acquérir... Quand on est adulte, hein, il s'agit de ces vertus d'une humanité originelle. Hein. C'est des vertus infuses. Il faut les retrouver. Elles sont là. Ces trois vertus infuses sont là. Il faut arriver à les retrouver. Et c'est ce que nous avons vu hier. Comment retrouver ces forces vives? C'est en retrouvant donc son père. Et c'est vrai que donc quand on n'a pas eu de père, on a beaucoup de mal. Quand le père a été absent, quand le père a été démissionnaire, ou quand le père a été tyrannique, ou idiot, enfin je veux dire. Quand il n'y a pas eu l'autorité du père, donc, ça c'est sûr qu'on... On a pas mal de chance, si on laisse aller, on a pas mal de chance de se retrouver sans force, avec des phénomènes d'inhibition. Ces phénomènes d'inhibition, vous allez les retrouver dans la vie communautaire, dans la vie familiale, dans la coopération, dans le travail, etc. Parce que si vous allez sentir un tant soit peu un moment, un tant soit peu, même tout petit, qu'on ne vous fait pas confiance, hop, ça va produire en vous comme une espèce d'invasion des phénomènes d'inhibition. C'est bien connu. Le phénomène d'inhibition, c'est parce qu'on ne vous fait pas confiance. Mais c'est pas parce qu'on ne vous fait pas confiance là, aujourd'hui et maintenant, c'est parce que... Donc il y a une, vous voyez, une paternité, il n'y a pas eu l'amour ses parents dont nous avons parlé hier. Et donc on ne vous a pas fait confiance. Bien sûr, fallait laisser faire le petit... Lui laisser cette prise de distance tout le temps, et la mère ne mettait pas l'enfant du côté du père. Elle gardait l'enfant sous sa protection, et du coup le père n'a pas eu son rôle. Le père n'existait pas. C'est quelquefois à cause de la mère, hein. Faut pas accuser le père, hein. C'est souvent à cause de la mère, hein. Parce que la mère prend tout et ne supporte pas que le père joue son rôle. Elle ne le supporte pas. Alors ça fait une crise d'identité terrible. Et une perte de force à chaque fois qu'il y a manque de confiance ou quelque chose qui ressemblerait ou qui risquerait qu'on ne puisse pas s'appuyer sur vous, pas vous faire confiance, et vous êtes paralysé par des crises d'inhibition. Donc il y a une guérison d'anamnèse à faire, pour arriver à faire anamnèse, et retrouver cette mémoire corporelle, physique, du père. Donc, c'est pour ça que j'aime bien le livre que nous lisons, de Don Bélanger, parce que, vous voyez, ces grands mouvements de mise en présence de Dieu, sous le regard de Dieu, vous voyez, c'est vont dans le sens des 50 actes que Thérèse proposait à son noviciat. En fait, le petit mouvement de rien du tout, quand vous êtes dans l'inhibition, vous pouvez encore faire bouger le doigt comme ça. Toc. Vous voyez, toc. Bouger le doigt, alors, ça suffit. Hop. Fusée du Saint-Esprit, comme disait le pape, aux Carmélites de Paris, n'est-ce pas? Elle transformait de temps en temps en fusée du Saint-Esprit. La petite étincelle, ça y était parti. C'est la paternité qui est derrière. Quand on fait oraison une heure le matin, c'est la maternité. Quand on fait ces mises en présence de Dieu, c'est la paternité. Quand j'ai un problème vis-à-vis de la relation de maternité, je vais avoir un problème d'oraison du matin. C'est sûr. Si j'ai un problème par rapport à la paternité, à la relation de paternité, avec des crises d'inhibition et une difficulté terrible à faire anamnèse, c'est sûr que j'ai besoin là de reprendre ces grandes mises en présence de Dieu, ces actes d'amour total à partir de la grâce totale d'origine, qui ne prennent que 2 ou 3 secondes, ce qui est très difficile, vous voyez, à faire plus longtemps, mais le faire souvent, oui, faire de nombreuses fois. Bon, allez. Donc hier, ce que nous avons, on va continuer. C'est là où on en était, on était en train de regarder l'apparition de l'identité. Et on ne fait pas une retraite, donc cette année, hein, on fait plutôt une petite session. M'excuse, c'est ras des pâquerettes, hein, mais tant pis. Hein. Quand on aura 4 jours de suite, on fera un peu plus haut, n'est-ce pas? Un peu mieux. Mais en 2 jours, on ne peut pas faire beaucoup plus que ces petites minutes. Bon, ce qu'on a fait, ce qu'on avait regardé hier, on en était là, on avait regardé les différentes phases qui permettent l'apparition de l'identité. D'abord la disposition. Selon la manière dont l'unité sponsale s'est réalisée, il y a une identité différente pour l'un, pour l'autre. Mais cette identité, cette disposition relève surtout, va donner surtout, comment on pourrait appeler ça, des grâces enveloppantes. Des grâces enveloppantes. C'est une très grande protection divine, selon aussi l'unité sponsale qui s'est réalisée en dehors complètement de la présence de Dieu. Des grâces enveloppantes. La conception elle-même, donc, quel moment, donc, la conception, donc, un grand moment très important, et là, c'est très difficile de savoir. C'est très difficile. Même si la mère est dans un état et le père sont dans un état terriblement délabré, ça fait rien. Je vous dis, il n'y a jamais de crise d'identité par rapport à ça. La conception ne laisse en nous aucune trace de crise d'identité, c'est-à-dire l'apparition, parce que Dieu prend toute la place. Le 8e jour, la première séparation, n'est-ce pas? On quitte les trompes et on rentre dans le liquide amniotique. Alors là, ici, peut-être, septième jour, huitième jour. Ah, peut-être que là, selon l'état de la mère, son angoisse, son truc, et elle a un accident de voiture juste à ce moment-là, enfin, j'en sais rien, je tombe dans les escaliers, ou j'en sais rien, oui. Ou alors elle fait une crise de culpabilité énorme, ou d'angoisse terrible, ça y est, peut-être que je vais avoir un enfant, puisque j'ai eu une relation, alors que j'étais au bonjour sommet, voyez, selon l'état dans lequel elle est, voyez, ou alors elle est en oraison, en état de grâce, elle fait une retraite à ce moment-là, ça change tout. C'est la première expérience de ses parents. C'est la première fois qu'il y a un amour séparant. La première fois. Cette première fois est très importante. À peu près. Faut apprendre à s'écouler délicieusement. Vous voyez comment, à l'intérieur du cœur de Marie, pour revivre ça en elle. Non mais les petites voies de guérison, on verra un peu plus tard. Donc on a vu que la deuxième grande expérience de séparation, c'est à la naissance, selon la manière dont la naissance s'est produite. Nous avons vu que le neuvième mois, il y avait une phase dépressive, très importante cette phase-là. Alors comment elle a été gérée? Il y avait, on en était hier, arrivé à l'âge de environ 2 ans, 3 ans, où il y a la phase de contre-dépendance. Contre-dépendance. Voilà où on en était arrivé. C'est une phase très importante, puisque c'est une phase aussi donc de séparation. C'est le non qui arrive, la phase du non, quelquefois, on appelle ça. Parce que c'est à ce moment-là que, pour la première fois, l'enfant va être confronté à la loi. Puisqu'il est autonome, il se met debout face à son... Il a une volonté qui est propre, c'est un jeu pour lui de dire non. Eh bien, du coup, il va falloir que il va y avoir la volonté du père et de la mère, il va y avoir sa volonté. Évidemment, donc, il y a deux grandes erreurs. Ou bien, non, tu n'as pas à dire non. On l'interdit de jouer à ça. Ou bien, alors, au contraire, il faut quand même que oui, c'est... Faut le laisser. Et du coup, il ne peut plus s'appuyer sur une limite. Et donc, il rentre dans une insécurité qui produira ultérieurement, fondamentalement, des angoisses irrépressibles. L'absence totale d'une limite, vous voyez. Et donc, c'est l'apprentissage de la loi. Ici, il y a quelque chose qui intervient, l'apprentissage de la loi. L'éducation, la première éducation ici. À l'âge de 3 ans, c'est à un point tel qu'à l'âge de 3 ans, le sentiment de culpabilité est complètement formé. Tout ce qui relève du sentiment de culpabilité, tout ce que vous portez comme sentiment de culpabilité, est entièrement formé à l'âge de 3 ans. Après, le sentiment de culpabilité va, comme nous l'avons déjà vu à Montpellier, va se muer en conscience de culpabilité. Donc c'est l'éducation de la conscience par rapport à la faute. Mais ça, c'est après 3 ans. On l'avait déjà vu. C'était le PPP2, pour ceux qui s'intéressent à cette question-là. N'est-ce pas ? Le sentiment de culpabilité, ça ne vient pas du tout de l'Église. C'est avant. Il est entièrement formé à 3 ans. C'est des lois de psychologie élémentaires, ça. Alors, bien sûr, après, la faute, le sens de la faute, etc., du péché, c'est la conscience de culpabilité. Ça, c'est encore un autre problème. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que nous l'avons vu longuement. En PPP2, En 1995, je crois. Voilà. Donc, on en était là. Pendant ce temps-là, il y a une relation avec Dieu. Il y a une relation avec Dieu, il y a une relation avec le Créateur, il y a une relation avec Jésus, il y a une relation avec Marie, et qui fonctionne, vous comprenez. Alors, et celle-ci, il faut la voir aussi progresser. Là aussi, il y a des étapes qui sont importantes à regarder. Des étapes qui sont très importantes à regarder, parce que la réceptivité, comme nous l'avons vu hier, la réceptivité, il n'y a pas de mécanisme de défense chez l'enfant. Au niveau spirituel, au niveau psychologique, au niveau corporel, jusqu'à un âge assez avancé. Alors c'est pour ça que les périodes, donc un, deux grâces enveloppantes sont originées ici, dans l'unité sponsale des parents. Si elle est sainte, cette unité sponsale qui préside à la fécondation, c'est sûr qu'il y a quelque chose de très particulier. Il y a quelque chose de très particulier dans la première cellule, quoi. Juste avant que Dieu crée l'âme spirituelle. Cette âme spirituelle est créée quand même dans une victoire de l'amour sur tout, si vous voulez. L'amour de Dieu prend tout. Alors c'est sûr que quelque part, il y a une disposition déjà corporelle à recevoir la présence de Dieu. Il y a quelque chose de plus fort, c'est évident. Mais ça ne dépend pas de vous, finalement, quelque part. Ça dépend beaucoup plus de Dieu que de nous, n'est-ce pas ? C'est évident. Si la mère est dans un état de prière au moment de la fécondation et puis des 7 premiers jours, un état de prière, une union à Dieu permanente, dans l'amour, dans la gratitude, dans l'union avec son mari, c'est évident que cette première expérience-là, ici, de séparation, normalement, elle sera plus douloureuse. Parce que, tellement béatifiante ici, elle sera plus douloureuse, mais du coup, il y aura une très forte identité dès le départ, si vous voulez. Il y aura un très fort désir, si vous préférez, une personnalité initiale, vous voyez, qui... Il y a un capital spirituel très important ici, dans les 8 premiers jours. Tout. Et puis, la réceptivité est très grande à partir du moment. La réceptivité est très grande. Et toute la période mystique, la conscience mystique, est à son maximum, peut-être pour toute la vie humaine, à ce moment-là. C'est le moment où la transparence est si grande, l'innocence est si grande, la confiance est si grande, l'abandon est si grand, l'obéissance est si grande, à travers son père et sa mère, à Dieu qui est là, qu'il y a une présence sensible, très, très forte. Donc si on confie l'enfant à Marie, si on confie l'enfant, si on prie pour que l'Eucharistie vienne brûler de gloire, et la reste des sacrements viennent dans l'enfant. Alors là, il y a une réceptivité sensible, psychique et spirituelle et surnaturelle, très étonnante. On voit ça dans l'Écriture, que l'homme est sanctifié dans le sein de sa mère. C'est la conscience mystique. Ah, vous voyez le drame quand on est porté par une mère qui ne prie pas, quoi. Qui regarde si on fait des Dopplers, on fait des, comment on appelle ça, des trucs pour voir si les Mongoliens, on fait des... s'il faut l'avorter, pas l'avorter, si... Alors, ou bien c'est une union mystique avec une contre-mystique, si vous voulez, de l'enfer, quoi. C'est l'enfer. Ou bien, c'est la vision du ciel. Et c'est vrai, Et jusqu'à l'âge de, vous le savez très bien, jusqu'à l'âge de 2 ans, les enfants voient. Ils s'en rappellent plus après. Ils s'en rappellent plus après. Dès que leur volonté propre arrive à l'occasion de cette phase de contre-dépendance, très vite l'oubli arrive, on ne se rappelle plus, ils ne se rappellent plus qu'ils ont vu l'Immaculée, qu'ils ont vu cette ronde gloire. Mais l'expérience, les apparitions, pas seulement extérieures, les apparitions même intérieures, les apparitions, vous voyez, c'est la phase mystique. Après la phase ici à laquelle on est en train d'arriver, de contre-dépendance avec l'apprentissage de la loi, eh bien, on est dans une ambiance de conscience religieuse. Ici, je parle bien sûr pour des familles normales, pas bloquées, qui ne sont pas dans un état de névrose religieuse, de névrose mystique. Le rejet de Dieu est un phénomène névrotique particulièrement étonnant, parce que c'est une métapsychose, métanévrose par rapport à sa propre paternité, maternité, filiation. Alors, c'est la névrose maximum. Et alors aujourd'hui, c'est sûr que c'est très embêtant. Alors évidemment, ici, je regarde les gens qui ne sont pas névrosés. C'est-à-dire nous. Nous, on n'est pas névrosés. Hein? Nous, on n'est pas psychosés, soit aucun d'entre nous. C'est évident. C'est les autres qui sont névrosés, psychosés. Nous, pas du tout. Et donc, pas de problème avec nos enfants. À partir du moment où l'enfant va passer de la conscience mystique à la conscience religieuse. Si vous voulez regarder ce problème, nous l'avons regardé attentivement pendant 1 an, en regardant l'éthique. C'était en 93, le samedi. Conscience religieuse. Et puis, la première épreuve arrive à l'âge de 6-7 ans, vous le savez ça. C'est la première épreuve. Où on fait la découverte de la loi profonde, de la loi intérieure, de la loi éternelle. C'est la première grande anamnèse de notre vie, ça. La première anamnèse est ici. C'est ce qu'on appelle l'âge de raison. C'est à ce moment-là qu'on découvre on découvre que c'est l'amour qui vient pas de nous et qu'il faut suivre cet amour-là toute sa vie. Je veux être généreuse toute ma vie, bon. Je veux être pure, je veux être une petite princesse toute pure, toute sainte, toute ma vie, transparente. Belle de pureté, de lumière, toute ma vie je fais de ça. À l'âge de 7-8 ans, ces petites filles, c'est admirable. Les garçons, 6-7 ans, s'ils sont rentrés, un tant soit peu, dans quelque chose de ce genre, si la conscience mystique et la conscience religieuse se rabat à un niveau purement de beauté, mystique, naturelle, donc vous voyez, une esthétique, la mystique paternelle et maternelle, rentre unique ou est morale, une espèce de morale, alors à ce moment-là, lui, il voudra être. Il va découvrir intérieurement que, il faut qu'il soit gentil, ou. Vous voyez, ce sera un peu plus bas comme découverte de son nom perpétuel, de sa vocation, si vous voulez, de sa vocation au bien, son bien suprême. Les petits garçons qui ont la vocation sacerdotale, c'est là, hein. C'est à ce moment-là. Dis-moi, je serai prêtre. Je serai prêtre éternel. Jésus, c'est prêtre éternel. Je serai prêtre éternel. Je serai prêtre. Je vais donner ma vie pour que tout le monde soit sauvé. Que Jésus puisse sauver tout le monde. C'est à ce moment-là. Bon, donc on en était ici, on va continuer. Donc soyons attentifs donc à ce que toutes ces expériences ici de séparation successive sont adjointes à des expériences d'union successive, plus profondes encore, plus libre encore, de plus en plus théologal. Le théologal apparaît ici avec la première fois, la première apparition de l'acte de foi personnel théologal de l'enfant. Bon, je vous rappelle, pour ceux qui s'en rappellent pas, qu'il y a la deuxième épreuve, l'adolescence, et la troisième épreuve, qui est celle de la puberté et de la jeunesse. Voilà pour la formation de la conscience mystique, spirituelle, surnaturelle, théologale. Bon, mais maintenant, nous regardons ici la formation de la conscience psychospirituelle et de l'identité. Donc, il faut avoir ça en trame, vous voyez, vous avez les deux. Vous avez ces deux niveaux qui sont ensemble. Hein. Vous me suivez? Alors, comme on le disait hier, évidemment, l'enfant, il commence à vous dire non, il vous regarde en face, il vous dit non, c'est non. Et puis, il fait... C'est. D'un seul coup, vous vous trouvez face à votre enfant. Jusqu'à l'âge de 2 ans, vous lui disiez, attention, il ne faut pas faire ça, il n'y a pas de problème. Et puis, d'un seul coup, il dit non. Puis, il va faire différemment. Vous voyez, il fait cette phase de contre-dépendance qui arrive pas d'un seul coup, mais si, assez brutalement finalement, vous le savez. Bon. Et alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que le père et la mère, eux, ils se retrouvent confrontés à eux-mêmes. Si eux, on ne les a pas laissés être eux-mêmes, on a refusé qu'ils se développent, on a refusé que, vous voyez, on a refusé leur vocation à être. À ce moment-là, quand leur enfant fait ça, ils réagissent très mal. C'est moi ce qu'on m'a fait, instinctivement, je vais faire pareil. Et donc, ils vont contre-réagir à la réaction donc de contre-dépendance de l'enfant, ils vont réagir mal. Ils vont donc reproduire sur l'enfant les mêmes problèmes que leur maman, les mêmes problèmes que leur grand-mère. Ça, c'est côté maternel, puis côté paternel. Alors, donc il faut voir comment est-ce qu'on gère ce conflit-là. Comment est-ce qu'on l'a géré déjà? Et si vous voulez savoir comment vous l'avez géré, c'est pas compliqué, c'est dès que vous arrivez... Donc on en était arrivé là hier, c'est là-dessus qu'on était arrivé. Dès que vous voyez arriver quelqu'un d'étranger, quelqu'un de différent, comment est-ce que vous réagissez? Votre enfant devient différent de vous. Comment vous réagissez? Et bien, si vous voulez savoir comment vous avez réagi, comment vous réagiriez, comment vous allez réagir, vous pourriez réagir, et bien c'est très simple. À chaque fois que vous voyez quelqu'un qui arrive, complètement différent de vous. Alors c'est facile ça, hein, les pièces rapportées, à la belle fille. Hein. Le gendre. Qu'est-ce qui sort de sa brousse, celui-là? Tu m'as ramené un noir? Oh non, tu nous as fait ça? Non, bon, tu nous as ramené un socialiste? Vous vous rendez compte? Mais papa? Oui, ma fille. Ben voilà, j'ai envie de me fiancer. Je te présente, il est là. Comment vous vous appelez? Adolf Hitler. Bon. Ah non, ça c'est... C'est pas parce qu'il est prophète qu'il dit non, c'est parce qu'il n'aime pas quelqu'un d'être. Et du coup, il devient... Adolf Hitler, de devenir un saint, devient une ordure, n'est-ce pas? Donc c'est parce qu'on a refusé. On a refusé sa différence. Alors, du coup, il devient monstrueux. Comment est-ce qu'on réagit quand on a quelqu'un de différent de nous, n'est-ce pas? Ou dès que je suis avec quelqu'un qui n'est pas comme moi, comment est-ce que je réagis? Est-ce que je réagis en disant, je vais essayer de le changer? Je vais essayer de le changer, allez. Je vais essayer de le changer. Ou bien alors je réagis en disant, allez, non, je coupe la relation, dégage. Ou bien je dis, je baisse les bras, je dis, il n'y a rien à faire, et puis je fais sourire alors que je n'ai pas envie. L'hypocrite. Il faut voir comment est-ce qu'on réagit. Hein. C'est ce type de réaction qu'on a parce qu'on est désemparé, c'est une autre gosse. Est-ce qu'on réagit en disant, mais oui, c'est bien, tu dis non. Ah, ça c'est très bien, pourquoi tu dis non? Comment ça... C'est là qu'on peut commencer à parler, tiens, tu dis non, parce que maintenant, tu n'es plus un bébé. Le dialogue, le partage, le face-à-face, la découverte, l'admiration, l'amour, les félicitations. Un amour nouveau. Oui. Est-ce que je suis content? Est-ce que je donne d'abord le droit à l'enfant d'être lui-même? Ou est-ce que je suis pas content? Je suis pas content parce que moi, hein, j'ai eu des problèmes hein, à cet âge-là, n'est-ce pas? Donc je suis pas content. Oui, donc vous voyez bien, quand il dit il faut aimer son enfant, ça veut dire qu'il ne faut pas forcément réagir avec ses réactions primo, primi. Il faut être attentif, remettre en question sa manière de réagir à ce que fait un enfant. D'ailleurs, on le voit très bien parce que si l'enfant réagit mal, tourne mal, etc., et ben, il faut que je me retrouve avec mon conjoint, son père, sa mère, on se retrouve tous les deux, et peut-être qu'on remette en question, on dit pourquoi est-ce que tu... Peut-être qu'on a fait quelque chose, peut-être qu'on s'y est mal pris avec lui, et qu'on change d'attitude, on discute entre nous, on fait chapitre, et on change d'attitude. On va essayer de voir, de changer d'attitude. Et en changeant d'attitude, en remettant en question son attitude vis-à-vis des enfants, en essayant de remettre en question, changer d'attitude, pour qu'il n'y ait pas cette réaction de violence, désespoir de la part de l'enfant qui finalement... Alors, on change d'attitude et aussitôt l'enfant sort de son... de ses réactions caractérielles. C'est... Alors je reconnais que quand il n'y a pas de dialogue entre les époux, c'est plus difficile de remettre en question son attitude. Mais alors à ce moment-là, on dialogue avec, avec la grâce. Avec la grâce en personne. Et puis on remet en question son attitude. Et on regarde différemment la manière de dialoguer, de gérer. Pareil avec les gens qui sont différents de nous, avec les gens qui ne sont pas comme nous. Je rencontre un type, je l'aime bien. Mais moi, mais il est quand même différent de nous, hein. C'est pas la même... Il n'a pas la foi. Alors comment je réagis, hein? Je coupe, je vais le changer, je vais le convertir. Ou bien, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer de le convertir, mais si vous essayez de le convertir par un point de vue artistique, ça ne marchera pas. Je vais essayer de le changer. Et c'est les trois types de réactions. Hein. Ou bien alors, je vais désemparer et je laisse faire, et puis je ne sais pas quoi faire, et je suis gauche. Hein. Voilà, c'est les trois types de réactions. Je coupe, je vais essayer de le changer, ou bien je laisse faire, et puis... Ouais, c'est les trois types de réactions qu'on a vis-à-vis de ces enfants-là. Donc comment je réagis, hein? Donc il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a... L'enfant, on le sait très bien, s'éloigne de plus en plus de la mère. Et il le faut, parce qu'il faut qu'il trouve son père. Il vient du père, il doit retourner au père. Et la mère est là pour petit à petit, pas brutalement, petit à petit, le remettre dans le père. Et c'est le père qui gère toutes ces distances progressives, successives, de plus en plus grandes. Il faut lui laisser un champ, un espace de plus en plus grand pour qu'il puisse s'élargir. Alors, ça ne veut pas dire du tout qu'il faut laisser l'enfant être le plus loin possible, puis qu'il ne s'en occupe pas. Ben, pour tout, il est libre, il dit non, ben, qu'il se débrouille. Hein, je peux réagir par la séparation en disant, bon, ben, tant pis, il dit non, je fais ma cuisine, tant pis. Ou alors, on va mettre des barrières pour qu'il ne casse pas toute la porcelaine, pour qu'il ne casse pas toute la... Parce qu'à ce moment-là, ben, ça monte. Hein, Si l'enfant n'est pas reconnu pour ce qu'il est, le nom va monter en crescendo. Hein. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre des barrières, on va fermer les portes, on va l'enfermer à la cave. À la cave, s'il casse des trucs à la cave, c'est pas grave. En plus, il fait nuit dans la cave. Alors ça va faire beaucoup de bruit parce qu'il va hurler, il va tambouriner sur la porte. Moi, je me rappelle quand on me mettait à la cave. ou alors on le casse. Alors moi, je me rappelle et je me rappelle pas parce que vraiment à 2-3 ans c'est difficile de se rappeler tout ça, mais on me lance, c'était parce que j'avais été mis à la garde. C'est un de mes oncles, alors lui, il s'en foutait, quoi. Il dit, ah bon, c'est comme ça, alors il te mettait, il te foutait un poil, il te flanquait dans les orties, puis après il te mettait à la cave. Moi, j'ai passé un mois à Dreux. J'ai beaucoup apprécié mon père en retour à la maison. Oui, parce que c'est très bien, vous voyez. C'est très bien de ces moments-là, mais il faut donc rester présent. On laisse la prise de distance se faire, la contre-dépendance se faire, mais on reste présent. Parce que dans la contre-dépendance qu'on va retrouver ensuite à l'adolescence, c'est un besoin très très grand d'être reconnu différent. Un besoin immense, viscéral, hein, d'être reconnu différent, et en même temps un désir d'être protégé. Donc, on reste là, on laisse, on parle, mais on formalise la différence en disant, c'est formidable que tu sois différent, mais c'est génial, enfin tu grandis, et ça c'est bien. Ah, que tu dis différemment, ça c'est très bien, mais, oh, un peu d'humour, mais non, ça c'est, je sais pas fâché du tout, mais bon, et les... Quand même un besoin de protection. On a besoin d'être très, 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 très protégé. Voilà. Alors, c'est pour ça que, bon, l'enfant, 2-3 ans, d'ailleurs, il commence à marcher. Oui, très bien, qu'il marche, qu'il aille dans les escaliers, etc. Non, va pas dans les escaliers. Va pas dans les escaliers. Hop, et puis jamais il peut aller dans les escaliers. Mais si, laissez-le aller dans les escaliers, qu'il se casse la figure. Qu'il se casse la figure. Mais vous êtes là. Ne laissez pas les escaliers, et puis qu'il se casse la figure, puis vous n'êtes pas là. Non, non, vous êtes là. Vous êtes là. Et puis, juste avant qu'il se casse la figure, enfin, ou au moment où il se casse la figure. Ça, c'est le père qui peut gérer ça. Hein. La mère, elle ne peut pas, hein, dire, oh, il va se casser la figure. Vite, elle le prend. Parce que le père dit, tiens, il va dans les escaliers. Ah, dans l'escalier, attention, tu vas tomber. Hein. Il fait pas comme la mère, il est plus futé le père. Et tu... Non, mais c'est sûr, c'est évident. C'est des... Et puis, au moment où... Non, mais quand il est là, ça fait rien, il suffit qu'il soit là une fois suffit. Toi, t'as un problème, toi. Une fois. Et il va dans l'escalier ou dans le jardin, si tu veux. Hein, et puis il va glisser, il va tomber, etc. Bon, vous voyez. Donc, c'est pas mal. L'idéal, c'est ça. L'idéal, c'est ça. C'est que le père, il est là. Il est, ou la mère. Hein, la mère, elle dit bon, elle peut jouer le même rôle que le père si elle est très unie au père. C'est pas grave. Si elle aime beaucoup le papa, elle peut faire la même chose. Donc l'enfant, il commence à prendre l'escalier. Et puis, il va tomber. Il ne faut pas le prendre avant qu'il commence à tomber. L'idéal, c'est ça, c'est que c'est qu'il tombe, il y a une peur panique, et whoop, juste avant qu'il se fasse, hop, il est rattrapé. Ça, c'est génial, ça. Mais... Oui, mais... Mais justement, c'est pour ça que, bon, c'est bien, il doit être protégé. Ou bien je le laisse prendre sa distance, mais sans protection, et ça, c'est très mauvais, parce que du coup, voyez, il n'est pas... protéger. Donc c'est deux manières de ne pas reconnaître l'identité d'un enfant de 2-3 ans qui est en phase de contre-dépendance. La première manière, c'est de refuser cette prise de distance, de refuser le nom, de refuser la différence, de refuser qu'ils soient différents, qu'ils disent différemment. Et la deuxième manière de refuser l'apparition de son identité nouvelle, c'est de refuser de le protéger. Il a besoin d'être reconnu comme différent et puis il a besoin d'être hyper protégé. C'est pour ça que c'est un âge idéal aussi pour apprendre à nager. Et c'est très bien que ce soit le père qui apprenne à nager. Parce que, à cet âge-là, c'est formidable, vous comprenez? L'enfant, c'est génial. Il est dans la mer, il y a du sel, vous flottez tout seul. C'est vrai, dans la mer, on flotte beaucoup plus facilement qu'au lac de Sainte-Croix, par exemple. Ou dans une piscine. Alors, vous êtes dans la mer. Alors, le papa, il est là, il lâche le gosse, il coule. Il le reprend. Il l'a protégé, vous comprenez? Il l'apprend à nager. C'est très bien que ce soit le père qui apprenne à nager. Apprendre, vous voyez, apprendre dans l'eau, apprendre à marcher, à courir sur la terre. Eh bien, on va courir, l'enfant va tomber, il va se faire mal, mais le père, quand même, il se fait mal juste seulement pendant 4-5 secondes, puis hop, il le reprend. S'il court avec papa. Il faut qu'il se fasse mal. Mais il faut pas que ça dure. Et aussitôt, il est protégé. On va dire, ah, tu t'es fait mal, oh là là, bibi. C'est pas, c'est... Bon, vous voyez, donc, apprentissage de la terre, apprentissage de l'eau, apprentissage du feu. C'est très important, comme c'est beau, l'apprentissage du feu. Les bougies... Les bougies, vous voyez, ou la chaudière, qui le poêle, vous savez, qui... Alors papa, il dit, attention, hein, attention, Charlotte, ne touche pas au poêle, c'est chaud. Non. De toute façon, papa, il n'est jamais là, donc je vais toucher le poêle. Et puis, papa, il est derrière Charlotte. Et il voit que Charlotte s'approche du poêle pour toucher le poêle. Et je connais un père, moi, qui a fait ça comme ça, il dit, « Ah, tu veux toucher le poêle ? C'est très bien, tu veux toucher le poêle ?» Il a mis la main, rop, sur le poêle. « Oh, oh, ça bouille, hein ? Tu vois, papa avait raison !» Mais, apprentissage de la loi. Ah, mais croyez bien que l'enfant, il a automatiquement la sécurité de connaître les limites de la transgression. Et croyez bien qu'il n'a plus jamais, ce gosse-là, je le connais, il ne sait pas ce que c'est que l'angoisse. Il ne sait pas. Ce gosse-là ne sait pas ce que c'est que l'angoisse. Bon, ne faites pas ça, hein. Enfin, si, vous pouvez le faire, à un moindre niveau, oui, à un moindre degré. La bougie, attention, c'est chaud. Attention, Momo, c'est chaud. C'est des gens qui... Là, mais laissez l'enfant mettre son doigt, quand même. C'est très important pour lui de faire l'expérience de la transgression. Si vous n'autorisez pas l'enfant à faire l'expérience de la transgression... Il connaîtra jamais la protection, ni les limites. Il sera dans une insécurité radicale. Vous voyez ? Cette phase de contre-dépendance est très importante. Et l'apprentissage de la loi. Alors, qu'il se brûle un peu. Qu'est-ce que ça peut faire ? mais pas trop. Pas trop. De toute façon, vous pouvez. Tu veux pas obéir. Hein? Je dis de pas toucher à la bougie. Bon, alors dans ce cas-là, dis, attention, c'est chaud. Alors moi, ce que je ferais. C'est qu'à ce moment-là, je soufflerai la bougie. Même maintenant, où il n'y a plus le feu, même encore c'est chaud, et je mettrai le doigt dans la bougie, parce que ça ne fait pas de cloque. Ça brûle, hein. Ça fait mal, hein. Mais ça ne brûle pas. Ça ne fait pas de cloque. Tu vois, c'est très chaud, heureusement, hein. Heureusement que j'ai soufflé la bougie avant, sinon ce serait très, 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 très mal. Oh, heureusement, je t'ai protégé. Mais il faut autoriser un enfant à faire l'expérience de la transgression, n'est-ce pas? Ça, c'est des choses très importantes. Alors, évidemment, on est quand même de toute façon un peu exaspéré. On se dit, comment ça, il dit non tout le temps? Il fait toujours non, il fait toujours que des sonneries. Vraiment, j'arrive plus à me maîtriser. Il y a une impatience. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, du coup, forcément. Il a sa volonté, nous avons notre volonté, on vit en communauté quand même. Donc il faut qu'une loi apparaisse. Hein. Il faut qu'il fasse l'apprentissage de la loi, sinon il n'y a plus d'apprentissage de la communauté, il n'y a plus d'apprentissage des limites, il n'y a plus d'apprentissage de l'autre, il n'y a plus d'apprentissage de lui-même, il n'y a plus d'apprentissage de sa propre identité dans la communauté, voyez. Donc la loi apparaît. C'est pour ça que la transgression, l'expérience de la transgression est une chose importante. La loi, elle est faite pour aider un enfant à exister. Elle est là pour l'aider à comprendre ce qu'il est capable de faire pour pouvoir acquérir son identité d'enfant là où il est enfant, voyez. Et donc on va poser donc des limites, on va commencer à mettre des lois. Voilà, si on lui empêche de vivre comme ça, en opposition, pour ainsi dire, de se frotter au danger, pour exprimer sa dissemblance sous le regard de papa et maman, si on lui refuse ça, alors à ce moment-là, eh ben, il va y avoir une certaine angoisse, ça c'est sûr, une peur, une abandonite, comme on appelle, et du coup, il va renoncer à cette dissemblance. Et renonçant à cette dissemblance, par panique, si vous voulez, d'être abandonné, eh bien, il va retourner à la fusion. Il va vouloir faire comme papa et maman, et il va rentrer donc, au lieu de grandir dans son identité, il va rentrer dans une similitude. Et il va vouloir finalement être comme papa et maman pour pas être abandonné. Mais du coup, vous voyez bien que du point de vue comme c'est l'apparition, c'est le premier moment de l'apparition d'une volonté, donc d'un amour propre, d'un cœur propre, d'actes qui sont origines dans sa volonté, donc dans son source d'amour personnel, c'est très grave parce que du coup, c'est le premier moment ça. Si on le lui refuse, si on le refuse qu'il ait une volonté propre, un amour qui lui soit personnel, à ce moment-là, il va rentrer donc dans, à nouveau, non pas dans une différence, un amour de différence, donc dans un amour d'identité, donc de complémentarité, mais il va se structurer dans un amour de similitude, qui plus tard, si ça n'est pas guéri, réparé, s'appellera une attitude d'amour homophile avec ceux qui lui sont semblables. L'amour de complémentarité, voyez, mon identité face à quelqu'un de différent de moi, et c'est une jeune fille, je suis un jeune homme, ouais, s'origine ici, le premier moment est là. Amour de similitude, amour de complémentarité. L'amour de similitude, vous le savez, c'est Moi, je ne fonctionne, je ne réagis en mon corps, en mon cœur, et plus tard, dans la deuxième phase de contre-dépendance, si ça s'aggrave à l'adolescence, à ce moment-là, c'est sûr qu'il va y avoir donc des plis donc d'homosexualité, si vous voulez, d'homophilie. Mais c'est le premier moment à guérir est ici, voyez. Quand on fait anamnèse, il faut guérir ce moment-là. Hein. Avant de vouloir guérir les problèmes qui relèvent de la complémentarité sexuelle. C'est la source, il faut toujours regarder le premier, vous savez, toujours dans toutes les guérisons. Eh oui, parce que nous sommes dépendants du regard des autres, et nous regardons, nous dépendons totalement du regard de notre père et de notre mère. Donc s'ils nous protègent, on peut être nous-mêmes. Mais s'ils refusent qu'on soit nous-mêmes, il ne reste plus que cette protection, mais malheureusement, on passe de l'expérience symbiotique à l'expérience fusionnelle, et donc il ne reste plus comme possibilité pour nous, pour vivre hors d'étouffement, que l'amour de similitude. Vous voyez cette détresse, hein? Alors, bon, chez un enfant, bon, il y a des réactions différentes, hein, bien sûr. Hein. Il y en a un qui s'écrasera, l'autre qui deviendra infernal. Hein. Enfin, c'est selon, justement, les types de personnalités. Bon, en quelque sorte, ça veut dire retrouver son identité. Retrouver son identité, ça veut dire être soi-même face aux autres. Je suis moi, c'est tout. Et savoir le dire, écoute, toi, c'est pas moi, moi, c'est pas toi. Et c'est très bien comme ça. Et c'est pas pour ça que je te rejette, c'est pas pour ça que je t'aime pas. Au contraire, je trouve ça très bien, très sympathique. Et on est compte, si on était tous roux, tous les yeux bleus, tous baveux. Et oui, et là, c'est tout à fait moderne, tout à fait, parce que l'amour de similitude est un processus qui peut aller jusqu'à l'homophilie, tout à fait moderne. La pensée moderne est un petit peu comme ça. Il faut que tout le monde pense la même chose, hein, politiquement correct. Oh là là, c'est terrible. Moi, je suis désolé, je suis pas du... Personnellement, je ne suis pas pour la nouvelle droite. Mais je trouve incroyable qu'on puisse dire vous n'avez pas le droit de penser comme ça. Alors, politiquement correct, hein, attention, hein, si tu dis que non, il a le droit de penser comme ça, je veux dire. Hein. Il y a comme une espèce d'uniformité de pensée qu'on appelle aujourd'hui, vous voyez, même dans les sermons, dans les églises, on entend ça, la tolérance. La tolérance. Alors, on tolère. La tolérance, c'est que on ne tolère pas la différence. On est intolérant. La tolérance, c'est quoi? C'est qu'on ne peut pas. Il faut avoir tous, finalement, la même pensée, à savoir qu'on nivelle tout à la même pensée. Il n'y a pas question que tu aies ton autonomie doctrinale. Qu'il y ait une autonomie doctrinale, c'est lamentable. Ça ne va pas du tout. C'est anti. Vous voyez, la tolérance, c'est un peu antidoctrinal, si vous voulez. Vous êtes une doctrine, ça donne une identité. Hein. Une sagesse, ça donne une identité. Mais dès que vous avez une identité, vous savez qui vous êtes, où vous êtes, où vous allez, où sont vos repères, où est votre origine, où est votre fin. Mais vis-à-vis de quelqu'un qui veut vivre la tolérance, il dit, mais tu me juges là. Vous sentez ça, qu'il y a le nivellement de la pensée, rabaisse tout à une communauté de similitudes. Au niveau philosophique, on est devenu homo-philosophe. Homo-philosophe, c'est joli ça. Il faut penser à peu près à la même chose, et donc il faut pas qu'il y ait des doctrines, il faut pas qu'il y ait de la lumière, il faut pas qu'il y ait des contrastes, il faut pas qu'il y ait de dogme, il faut pas qu'il y ait de la vérité. À chacun sa vérité. Il n'y a pas de vérité. C'est évident, ça. Mais alors que... Pardon ? Depuis que le dragon a 7 têtes est passé de la mer à la terre. Il y a 10 cornes. Quand le dragon a 7 têtes est passé de la mer à la terre, ça part de ce moment-là. Ouais. Non, bien après, hein, bien après. Ah oui. Non, le siècle des Lumières. Non, Occam, si vous voulez avoir une source, il y a une crise d'identité par rapport à la vérité humaine, par rapport à la sagesse philosophique, par rapport à la sagesse métaphysique, c'est Occam. D'accord. 14e siècle. Ça, c'est un petit peu le refus de la différence au niveau de l'être en philosophie. C'est Occam qui refuse cette différence au niveau de l'être. Il n'y a pas de différence entre l'être fini et l'être infini. C'est la même chose. C'est la même notion. Et il se distingue être infini et être fini. Donc, il y a une crise d'identité. Il n'y a pas de... Il y a une crise d'identité philosophique au niveau du Est. Mais ça, c'est tout à fait... C'est un germe qui va se développer progressivement et qui va exploser. Ça, c'est quand la bête se trouve dans la mer. Mais quand elle monte sur la terre, elle a 7 têtes, 10 cornes. Ça, c'est beaucoup plus tard. C'est fin 19e. À peu près, oui.
Moi, je croyais que c'était depuis la Révolution française que ça avait été mis en pratique.
Non. Non, la Révolution française, c'est la mise en pratique du siècle des Lumières, c'est tout. C'est Feuerbach, c'est tu vois, c'est la dialectique bourgeoise. C'est Hegel, avec Feuerbach, tout ça. C'est pas encore le dragon à 7 têtes. C'est l'océan idéologique, dialectique, toute sa splendeur, la Révolution. Mais c'est pas encore le dragon à 7 têtes sur la Terre. Bon, mais ça, on voit ça dans l'Apocalypse, n'est-ce pas ? C'est pas aujourd'hui qu'on va expliquer ça. Vous voyez, quand aujourd'hui, je suis tout à fait d'accord qu'il faut que la tolérance est quelque chose de très important. Mais c'est pas fondamental, c'est pas ultime. Il y a le respect avant. Il y a l'amour de la vérité qui est plus grand que la tolérance. Il y a la charité qui est plus grand que la tolérance, il y a l'espérance, il y a l'humilité, la confiance, et l'obéissance est plus grand que la tolérance. Et une fois qu'on a tout ça, il y a une petite dentelle, une petite fleur très jolie qu'on appelle la tolérance. Parce qu'on ne se sent pas en danger, hein. Parce que l'autre pense différemment, il pense différemment bien sûr, c'est bien, le pauvre ou le bienheureux, ça dépend. On a tous notre heure, de toute façon. Et puis, on est complémentaires, quelque part. C'est sûr. Voyez ? Donc, cette espèce d'esprit de tolérance qui veut enlever, sous prétexte de tolérance, tout amour de la vérité, tout amour de l'identité, tout amour de la sainteté, tout amour de la différence, de la complémentarité, eh bien, elle exprime l'incapacité à être à part, voyez. Il ne faut pas qu'il y ait des gens à part. Il ne faut pas qu'il y ait des choses sacrées. Sacré, ça veut dire être à part, être séparé. Sacerdoce, c'est donc le don sacré, celui qui est donné pour être à part des autres. On ne supporte pas... Par exemple, que les gens se mettent à part dans un couvent, donnent leur vie ensemble dans une communauté. Mais ça, c'est sectaire. C'est sectaire de faire ça. Donc, le refus du sacré, le refus de cette... l'incapacité à être séparé des autres, l'incapacité à être regardé comme différent. l'incapacité à supporter quelconque impression de persécution, vous voyez. D'être considéré comme différent, l'incapacité d'être dans une lutte, d'être dans un conflit, d'être dans la différence, d'être soi-même. Alors du coup, vous nivelez tout, ah bon, et puis, et du coup, cette incapacité fait qu'il y a des phénomènes d'inhibition, ça c'est évident. Hein. Il n'y a plus aucune confiance en vous-même, et donc vous ne pouvez pas lutter. Vous êtes dans l'incapacité de lutter. Cette incapacité d'être séparé des autres, d'être différent, d'être sacré, d'être mis à part, d'être choisi. D'être contemplatif. Un contemplatif est toujours séparé des autres, parce qu'il aime la vérité. C'est pour ça que, bon, vous voyez, quand c'était mes chers amis lituaniens, hein, sur mes 3,5 millions, là on avait un lituanien, Darius, hein, hier. Hein. Sur mes 3,5 millions de lituaniens, ils en ont... C'était insupportable parce que ils sont restés avec une ambiance familiale très forte. Dans toute l'Union soviétique, la Lituanie avait quelque chose de très particulier parce que la structure familiale est très forte, parce que c'est un des rares pays d'Union soviétique qui ait eu la chance d'être en même temps le seul pays qui était catholique, le seul pays qui soit à structure fondamentalement agraire, et autarcique au niveau familial, pratiquement. Donc faire le communisme là-dedans, ça ne va pas être commode. Parce qu'ils avaient chacun un cochon, et puis c'était... Bah, du coup, c'était insupportable pour le nivellement de la pensée unique, n'est-ce pas? Eh bah, bien, ils en ont quand même tué plus d'un million. Hein. 1 million sur 3,5. Et attention, pas que les hommes. Les enfants, les adolescents, les femmes, les vieux. J'ai vu les cercueils en 80. Pendant qu'ils ont pris. Et c'est eux qui ont proclamé l'indépendance. C'était explosé. Ils ont affirmé leur différence. Là, comme ça. Donc, cette incapacité, vous voyez, à être à part, choisi par Dieu, être saint, être contemplatif, être séparé des autres, être dans la lutte. C'est tout à fait. L'Esprit Saint, qu'est-ce qu'il fait ? L'amour du Père et du Fils, l'amour du Père et de la Mère, l'amour de l'identité, l'amour de la sainteté, l'amour de l'éternité, l'amour de la substance et de l'acte, l'amour de l'un, l'amour éternel. L'Esprit Saint sépare les ténèbres, il nous sépare des ténèbres. La tolérance, hein, c'est l'inverse, hein, c'est on met tout le monde dans la cave et puis voilà. Et comme ça, personne ne bouge. C'est merveilleux. On ne te fait pas confiance. Jésus, Marie, nous font confiance. Ils ne nous étouffent pas, hein, Jésus, Marie. Ils nous donnent, ah, t'es comme ça, ben, tiens, je t'aime comme ça. Et c'est encore mieux si t'es un saint. Ah, très bien. On te protège. Hein. Si tu veux, si tu me demandes, si tu te mets sous notre regard, mais ce regard du Père, mais le regard du Verbe. Si tu te mets sur le regard du Verbe, c'est quoi le regard du Verbe? Parce que le regard paternel, c'est pas très difficile de savoir ce que c'est. Mais le regard de la Mère, spirituellement, surnaturellement, je dis ça au passage, comme ça. Le regard du Verbe. C'est féminin, le Verbe, hein? C'est l'épouse de l'époux. Le verbe, c'est l'épouse de la première personne, de l'époux. Mais son regard passe, et le regard du Père sur nous passe par notre innocence divine d'origine dans notre corps. Il est là. Il nous donne la vie d'être à son image, à sa ressemblance. Et on retrouve cet amour à quasi infini d'innocence. Le visage de la mère, c'est le Verbe. Oui, mais par quel corps passe-t-il? Par le corps du Christ. Et aujourd'hui, par le corps mystique de l'Église. Ne pas pouvoir se mettre à l'intérieur du regard intime, immaculé, divin du Verbe dans son corps mystique de l'Église, voyez, c'est un problème par rapport à la maternité. Hein. Ils en rejettent l'Église. Ah non, c'est trop blessant, l'Église. C'est un problème par rapport à la maternité. C'est évident. Une incapacité à trouver la féminité féconde, immaculée, indestructible de Dieu dans la sainteté de l'univers. Il faut aimer l'Église. Alors évidemment, aimer l'Église, ça veut dire habiter et la découvrir, découvrir le Verbe à l'intérieur de son corps mystique. Et on est sous le regard du corps mystique de l'Église, du corps mystique de Jésus, du Verbe. C'est sûr, quand on a un problème avec l'Église, il y a un gros problème avec la mère. C'est évident. Maintenant, je ne parle pas de l'Église extérieure. Je parle de l'Église. Je parle du corps mystique du Verbe incarné dans ses membres. L'Église, c'est un tissu de relations personnelles. Et on est liés tous, parce qu'on est engendrés par le Verbe incarné dans un seul corps mystique. Mais si on a une crise d'identité par rapport à la mère, comment voulez-vous qu'on ait un tissu, qu'on puisse pénétrer dans un tissu de relations personnelles, jusque dans un seul corps mystique, engendré par le Verbe, par l'amour substantiel qu'il a avec l'époux éternel, qui est le Père, qui se trouve, lui, dans mon... toutes les... alors là, dans mon corps personnel, physique, individuel. Ce lien entre le Père et le Verbe est très fort. Cette difficulté du coup à vivre de l'Esprit Saint, forcément. Si on n'est ni dans l'adoration, ni dans l'oraison, c'est pas si commode que ça. Alors, après, si l'enfant reste sous le regard de ses parents, que ses parents aiment qu'ils prennent son indépendance, lui font faire l'expérience de la contre-dépendance et l'expérience de la transgression. Il faut qu'il fasse l'expérience de la transgression. Et ayant fait l'expérience de la transgression, il est pris en flagrant délit. Parce qu'on est là. Il est pris en flagrant délit. S'il est pris en flagrant délit, eh bien, forcément, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, s'il est pris en flagrant délit, vous voyez, c'est pour ça que le sentiment de culpabilité, là... hein. C'est plus un flagrant délit, ben, faut pas dire « Ah, tu as mis quand même le doigt sur la bougie. Eh, je vais te donner la fessée. » Il a fait l'expérience de la transgression. C'est un jeu pour lui. C'est un jeu. Il y prend beaucoup de plaisir. Il faut pas que tu ailles sur la route. Ben, il va aller sur la route. Hein. Il va prendre le chemin, il va aller sur la route. Il va courir. Et ce qui est marrant, c'est qu'il a pas peur du tout. Il rit, il est content de faire ça. C'est un jeu, c'est un plaisir pour lui, parce qu'il découvre sa volonté, son identité. C'est un jeu, c'est un travail aussi. Mais pour l'enfant, le travail, ça se résout au jeu. Donc, c'est un grand plaisir, un très grand bonheur, il se découvre. Et vous allez arriver en disant, tu as désobéi. Alors bon, vous pouvez dire, si vraiment c'est ennuyeux, il faut lui mettre une limite quand même. On va dire, ça, attention. Hein. Alors, il faut donner une petite fessée. Mais attention. Pas trop, hein. Parce que dès qu'il y a une correction physique, il faut savoir que forcément, vous avez dépassé les limites, vous. Donc, c'est juste pour... Il faut que ce soit physique, mais il ne faut pas que ça fasse mal. Parce que c'est la correction physique qui met la limite. Mais il ne faut pas que ça fasse mal, parce qu'à ce moment-là, vous détruisez l'expérience d'identité. Et vous n'êtes plus protecteur. Et puis après, la petite juive en disant, heureusement que la voiture n'est pas venue pour t'écraser. Et là, vous montrez ici un escargot, tu vois, regarde la voiture, hop, et puis vous mettez, je sais pas, avec votre pied, la voiture arrive, et hop, l'escargot est écrasé. Oh, heureusement, t'es pas écrasé, regarde. Allez, je t'ai donné une juive comme ça, tu seras jamais écrasé comme ça. Et non, je veux pas que tu sois écrasé, hein, parce qu'il faut que tu sois toi-même, tu rigoles, hein. Faut vivre, hein, voyez. Vous voyez, il faut être extrêmement attentif, hein, en fait, puis faut être... Pas psychologue, mais il faut être attentif à ce qu'on fait, à la manière dont on fait faire à l'enfant l'expérience de la transgression. S'il ne fait pas l'expérience de la transgression, c'est très ennuyeux. Donc, si il fait l'expérience de la transgression, s'il est lui-même, s'il est accepté comme différent, si on l'aime comme ça, si on le surprotège en même temps, si on lui montre qu'on est là, on protège un enfant en montrant qu'on est reste présent. Et puis, Et alors, c'est à ce moment-là, et c'est là qu'il faut être attentif, au niveau éducatif, il faut commencer à protéger l'enfant sur le plan donc spirituel. Parce qu'il commence à avoir une autonomie, une volonté propre. Donc à partir de ce moment-là, il y a les séquelles du péché originel, et c'est là que va se construire le moi, possesseur, jouisseur, dominateur. C'est là que quand il va être dans le baquet de sable avec les enfants, avec les copains de l'immeuble, là, au HLM, eh ben, il va casser la gueule aux autres, il va leur jeter du sable, s'il est plus faible, il va lui faire manger du sable jusqu'à ce que le pauvre étouffe, enfin, il va faire plein de trucs. Hein. Spirituellement, si vous voulez, il faut faire attention, donc il faut cette fois-ci le protéger par rapport à des actes volontaires, des actes spirituels, des actes. C'est pas mauvais que son moi, possesseur, juisseur, dominateur, se construise. Parce que c'est l'ego qui se construit. Il faut qu'il se construise, l'ego. Mais il faut être très attentif parce que c'est très très tôt, c'est à cet âge-là, que le point de vue du moi dominateur et du moi possesseur commence à apparaître. C'est donc la période, vous le savez très bien, du jeu. Il faut jouer. Les jeux. Et donc les jeux en société sont très importants. Hein. C'est pour ça que j'aime pas beaucoup aujourd'hui qu'on donne des jeux solitaires. Hein, à cet âge-là, pour être tranquille. Et le jeu solitaire par excellence, qui est complètement absurde, c'est la télévision. Je connais vraiment un petit garçon comme ça, qui, à partir de l'âge de 4 ans, on a mis une télévision dans sa chambre. Mais vous savez, en France, entre l'âge de 4 et 8 ans, les enfants français, en moyenne, passent 22 heures par semaine devant la télévision. C'est une catastrophe, hein. Une catastrophe parce qu'à ce moment-là, cette phase d'indépendance, vous voyez, qu'est-ce que c'est? Vous voyez comment le moi, vous voyez l'ego, comment il se construit, hein. C'est quelque chose d'assez... Donc c'est très tôt que l'ego se construit, vers 4 ans. Alors, et l'enfant, à ce moment-là, n'est pas du tout innocent. C'est justement à ce moment-là qu'il il commence à sortir de l'innocence. Il commence à... L'ego se construit, et en même temps, la responsabilité. Il y a une responsabilité de ses actes. Et donc, il est responsable de ses actes. C'est pour ça que le sentiment de culpabilité est entièrement construit maintenant. Eh bien, c'est la conscience de culpabilité qui va prendre le relais. Donc s'il y a eu des gros problèmes jusqu'à l'âge de 3 ans, sentiment de culpabilité, il y aura, comme nous tous, des petits problèmes névrotiques. Mais s'il est mal éduqué dans sa conscience de culpabilité, dans sa responsabilité initiale, alors là, c'est ici, quand on parle de gens qui sont schizoïdes, sauf accident génétique, bien entendu, et ben, c'est après l'âge de 3 ans. C'est la conscience de culpabilité. La dérive de la conscience de culpabilité, des dérives souvent d'alcoolisme, des dérives schizoïdes, etc., s'origine dans une déstructuration de la personnalité, dans la construction d'ego, à partir de 4 ans. C'est beaucoup plus grave, hein, les dérives que les petites névroses. Alors, il faut savoir donc que l'enfant n'est pas du tout innocent à ce moment-là. Par conséquent, il faut savoir dialoguer avec lui. Et il faut qu'il puisse, puisque c'est l'apparition de la conscience de culpabilité, il faut lui apprendre à dire ce qu'il a fait de mal. À dire tout simplement. Si il a fait des choses trop pénibles, que ça, nous on a été exaspérés, qu'on l'a corrigé, qu'on a été même trop loin dans la correction, qu'on a été trop vache avec lui ou trop injuste, il faut, à ce moment-là, dans l'éducation, dire, tu sais, je te demande pardon, le papa ou la maman, hein, parce que c'est bien, je suis content de t'avoir puni, Mais je te demande pardon parce que je n'ai pas fait bien. J'aurais pas dû frapper si fort. C'est vrai. Il faut savoir demander pardon aux enfants quand ils ont 4, 5, 6 ans. Sinon, ils ont une incapacité absolue après à se dire. À dire ce qu'ils ont, à dire ce qu'ils ont fait, à dire leurs émotions. Et du coup, ils ont une incapacité à gérer leurs émotions. Et donc, ils auront une incapacité progressive à vivre dans leur cœur, à revivre dans la source d'amour qui est leur cœur profond. Ils vont perdre cœur. Donc, c'est important de comprendre que l'enfant n'est plus innocent à partir du moment où il sort de la phase de contre-dépendance, qui rentre dans cette phase d'indépendance. Il commence à jouer tout seul, jouer avec des copains. 4, 5, c'est très beau ça. C'est très bien. Et donc, il faut que l'enfant à ce moment-là trouve psychologiquement effectivement une indépendance. Vous êtes très content que psychologiquement il soit indépendant. Mais il faut en même temps que vous soyez là, il faut qu'on soit là, pour qu'il trouve une liberté spirituelle. Vous voyez la différence d'un point de vue psychologique, indépendance et point de vue spirituel, dialogue. Le dialogue porte son point de vue spirituel, donc c'est le point de vue de l'aveu du pardon. Mais si vous n'avez pas, c'est vous qui engendrez ça, hein? C'est le père qui engendre, c'est la mère qui engendre l'aveu, le pardon. Si la mère ne dit pas, ta maman est fatiguée, te demande pardon, elle n'a pas pu, elle est peut-être aussi un peu égoïste. Elle n'est pas gentille, mais ça fait rien, tu aimes quand même ton maman. Alors à ce moment-là, l'enfant, ça va le désangoisser. Il ne sera plus dans l'angoisse de dire ce qu'il a fait. Et il ne dira plus à sa petite sœur ou à sa sœur, tu ne diras pas à papa et maman, tu ne diras pas. Hein? Ta sœur, tu ne diras pas. C'est vrai que tes parents qui ne demandent jamais pardon à leurs enfants, ou par un geste, peut-être pas par parole, déjà par geste, en disant « Oh, viens ici, viens, c'est pas grave. » La maman demande pardon pour ce que le papa a fait. Le papa demande pardon pour ce que la maman a fait. Ça marche très bien aussi. Tu sais, si ton papa, il t'a giflé comme ça, c'est parce que quand même, tu avais drôlement exagéré, c'est pour ton bien, c'est parce qu'il t'aime, hein. Alors, d'accord, tu comprends pas, mais... Et c'est très bien, et moi je suis tout à fait d'accord qu'il ait fait ça, mais en même temps il faut que, oui, il faut s'expliquer, demander pardon, avouer que, bon, rétablir, revenir à une réconciliation. Parce que souvent ça vient des parents, hein, quand ça grince. Ça vient de l'enfant aussi, parce qu'il n'est pas innocent. Donc il faut qu'il y ait un dialogue spirituel. Quand je dis spirituel, vous voyez, c'est quelque chose, on revient à la source d'amour, à l'exigence d'amour, à l'exigence du cœur, à l'exigence d'union, à l'exigence de communion dans la différence. Tu fais ce que tu veux, tu joues comme tu veux, c'est très très bien. Mais tu ne mettras pas du sable dans la bouche de ta sœur jusqu'à ce qu'elle puisse plus parler. Oui, parce que donc il va aller à ce moment-là, il me semble que c'est à quel âge qu'on va à la maternelle. Du coup, à ce moment-là, il va à la maternelle. On joue à la maternelle, on travaille à la maternelle. Donc il y a une indépendance, il commence à avoir son autonomie. Son moi commence à avoir son autonomie psychologique. Mais il n'a pas d'autonomie spirituelle, donc il y a un dialogue à faire. Il faut l'engendrer d'un point de vue spirituel. Il faut parler avec lui. Notre conscience religieuse. Apparaît. On est dans une ambiance religieuse. Hein? Il n'a plus de vécu mystique, il commence à sociabiliser, il s'agite, il n'est plus dans cette écoute extraordinaire, transparente. Il se sociabilise et donc il rentre dans une ambiance religieuse. Et donc le dialogue sur le plan spirituel, sur le plan religieux, devient très important. Il n'est pas indépendant sur le plan spirituel. Donc il a besoin d'être dirigé à travers un dialogue d'amour et enseigné. Voyez ? Alors, entre 4 et 7 ans, à peu près en même temps, mais ça démarre à partir de 5 ans surtout, il y a ce qu'on appelle une phase d'identification. Si effectivement tout ça, ça fonctionne bien. Alors rappelez-vous d'ailleurs, parce que là, vous commencez à avoir des souvenirs. Vous vous souvenez de votre propre enfance, n'est-ce pas ? Vers l'âge de, du coup, la phase, donc, je vais vous marquer, d'identification. 5-7 ans à peu près. Phase d'identification. Cette phase-là est une phase, il faut être attentif à ça parce qu'elle est très intéressante. Et puis si vous... Parce que c'est l'aspect de la distinction de la différence garçon-fille, n'est-ce pas ? Et le petit garçon, par exemple, je sais pas, il va mettre la robe de sa maman, la petite fille qui va mettre le chapeau du papa. Une identification avec la personne du sexe différent. On cherche son identité. Et il y a, je sais pas moi, c'est à ce moment-là qu'on commence à essayer de regarder. C'est l'époque, si on a des petits frères et sœurs, où on est dans le bain et on commence à avoir des curiosités. Et on joue au docteur, et etc. Bon, n'est-ce pas ? Bon. C'est très amusant parce qu'il y a le côté des vêtements du côté des parents, le côté bonjour au docteur, vous savez ce que c'est. Hein. Bon, alors c'est. D'ailleurs, les parents qui sont intelligents, ils font ça. Ils mettent le petit garçon, la petite fille dans la baignoire. Voilà. Comme ça, ils vont pas faire ça avec un copain complètement perverti qui a un an de plus et du quartier, et puis je sais pas quoi. Et puis, il y a la curiosité. Et cette espèce de curiosité. Et oui, pourquoi ? Parce que là, ici, le garçon, il regarde vers son père pour voir, comment dire, s'il a honte de son père, s'il manque de fierté, s'il n'est pas fier de son père, vous voyez, il a honte de son père, il regarde vers son père, il y a une espèce de petite angoisse, parce que s'il a honte de son père, s'il n'est pas fier de son père, alors il ne peut pas s'identifier à lui. S'il regarde vers sa mère, et puis que le père, bon, il n'arrive pas à s'identifier à sa mère, parce que c'est pas... Alors le papa, il dit jamais, ah, ta maman, elle est jolie, ta maman, elle est belle, ta maman, je l'aime, ta maman est formidable. Alors la petite fille n'arrive pas à s'identifier à sa mère. Alors elle va faire un petit croisement, elle va mettre... qui va prendre le chapeau de papa, qui va prendre les lunettes de papa, les chaussures de papa, et le petit garçon qui va prendre les chaussures à talons de maman. Hein. Vous avez tous vu ça, non ? Je vais pas... Non. C'était la recherche de l'identité. Bon, ça relève évidemment, oui, parce que si on peut pas s'identifier aux parents du même sexe que soi, eh bien, on ne voudra pas être comme lui, quoi. Voyez ? Donc ça peut être une aggravation du phénomène de l'amour de similitude dont nous avons vu. Ça peut être une aggravation ici qui s'opère. Soyez très attentifs parce que c'est l'avantage de toutes ces phases, c'est que les phases antérieures préparent les phases ultérieures, d'une part, et d'autre part, les phases ultérieures peuvent guérir les phases antérieures, si on est attentif. Bon, qui ne dira pas qu'il y en a tout le temps ? Mais c'est bien de pouvoir voir comment on guérit progressivement Alors, du coup, ça fait une inquiétude profonde, comprenez, parce que si vous ne pouvez pas vous identifier à votre père, vous êtes un petit garçon, et une inquiétude qui se fait, une inquiétude profonde, une rupture avec ce que je suis quant à la nature de mon corps. Une espèce de rupture. Cette inquiétude me met en rupture par rapport à... moi, je suis un petit garçon, et puis il y a papa, quoi. Et puis maman, elle n'aime pas papa, hein, apparemment. Enfin, je sais pas, et puis... elle n'est pas fière de son papa. La maman, elle te dit pas... ah, ton papa est formidable. T'as vu tout le travail qu'il fait. Hein. T'as vu tout le travail qu'il fait dans le jardin. Regarde, c'est fou. Hein. Ton papa, il travaille tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et alors, on peut plus s'identifier avec son père. On n'est pas fier de son père. Ton papa est merveilleux. Regarde comme il est beau. Il a un sourire. Regarde. Il illumine le ciel. Hein. Ton papa est... la lumière de la maison, il n'est pas souvent là, d'accord, mais ça, c'est pas grave. C'est parce qu'il travaille pour nous. Et ton papa, il est fort, hein, dehors, eh ben, attention, hein, il faut qu'il est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors quand il vient à la maison, on va lui faire un goûter, du saucisson, du beurre, du machin. Et pour moi, non, c'est pour ton papa, parce que c'est ton papa. Ah ouais, quand mon papa rentrait à la maison, hein, ma mère, c'est ça. Des tartines, du petit pain, comme ça, du beurre, et puis du saucisson, comme ça. Alors mon père, il mangeait ça, il dit, je peux en avoir? Ah non, non, ça c'est pour ton papa, regarde, il a tellement travaillé. Hein. Et le matin, c'était pareil, avant qu'il parte au travail, alors. Et c'est lui qui avait le Rice Krispie, avec les raisins de Corinthe, des trucs de banane. Et nous, on avait un espèce de lait infâme. On était 7 autour de la table. On était tous en train de joucher sur le bol de papa. Alors, on s'identifiait facilement avec papa, tu sais. C'est la maman qui faisait ça. Alors, papa, il disait, qui est-ce qui vous dit Rice Krispie? Alors, chacun son tour. Alors, on se levait, on faisait le tour de table, il prenait une touche, et puis il continuait à manger. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, bon, très bien. À son tour, on tourne la table. C'était génial. Et le papa, il dit, la petite fille, il dit, mais ta maman, qu'est-ce qu'elle est... La beauté, elle est belle, qu'est-ce que je l'aime. Elle est tout pour moi, elle est tout pour moi. Et puis ma chérie ici, ma chérie là, ta maman, tout. Qu'est-ce qu'elle est belle et tout ça. Alors si à ce moment-là, la petite fille, c'est formidable. Hein. Elle s'identifie à sa mère, forcément. Hein. Normal, même si la maman est très 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 laide, qu'est-ce que ça peut faire. Le papa, il dit... elle est très belle. Ah oui, d'accord. Donc, mon vieux, je n'aurais pas avancé beaucoup. Il faut continuer. Oui. Donc, s'il y a une difficulté par rapport à ça, une rupture, une inquiétude par rapport à ma propre nature, par rapport aussi à cette impossibilité de s'identifier aux parents du même sexe, il va y avoir ces petits signes dont je vous parlais. Vous voyez ? On va... la petite fille qui va plutôt essayer de s'identifier à sa mère, qui montre cette inquiétude, et il va y avoir aussi éventuellement aussi ses curiosités, ses jeux de docteur, ses curiosités, ses obsessions aussi. Vous savez, bon, parce qu'il y a la phase, j'en ai pas parlé, mais enfin, c'est la phase anale, pipi, caca, etc. C'est aussi à l'intérieur de la phase de contre-dépendance qu'il y a ça. Mais ici, là, attention, là, c'est... il y a eu un dialogue spirituel, alors à ce moment-là, oui, on s'aperçoit qu'il y a des obsessions. Donc, eh bien, pour gérer ça, il faut être à l'aise. Parce que si vous engendrez vos propres angoisses là-dessus en disant « Oh, mais qu'est-ce que tu faisais à la cave avec la petite cousine, dis donc ?» C'est juste, il y a un mètre. Qu'est-ce que tu faisais à la cave? Ils sont plus en flagrant délit. À l'aise. Ne vous inquiétez pas. À l'aise. Allez-y, à l'aise.
faut y aller à l'aise. Faut pas que vous, que vos angoisses, machin, vous arrivent dessus, et puis pour intensifier l'inquiétude. Au contraire, faut dire, faut l'aimer d'une nouvelle manière à ce moment-là. Faut comprendre ce qui s'est passé, l'aimer d'une nouvelle manière, et puis à ce moment-là, comprendre qu'il y a une crise d'identité, et donc commencer à parler les jours suivants, etc., à table, etc., et parler en magnifiant donc celui avec qui il n'arrive pas à s'identifier. C'est le père pour un petit garçon, c'est la mère. Et qu'on s'entende entre nous pour qu'il puisse justement, de plus en plus, donc la mère montre le père ou le père montre la mère, si c'est une petite fille. Mais vous voyez, ça doit être vrai, hein, ça doit pas être une technique, hein, ça doit être vrai, il faut renouveler l'amour à ce moment-là, parce que ça prouve qu'il n'y a pas l'amour du parent du même sexe que l'enfant, et n'est pas suffisant. Et donc il y a une honte. Et ça ne doit pas être une technique, hein, ça doit être vrai, mais ça doit se dire aussi. Si on ne fait que le dire sans que ce soit vrai, la guérison sera sur le plan psychologique, elle ne sera pas sur le plan spirituel. Et si c'est vrai, ça sera sur le plan psychologique et sur le plan spirituel. Vous voyez ? Alors, si vous n'êtes évidemment pas à l'aise par rapport à ça, vous voyez, un jour je rentre dans la salle de bain, je suis ma sœur et sept enfants. Alors, ils étaient trois dans la baignoire. Et puis alors, il y avait l'aîné, le garçon. Et bon, il jouait avec la petite sœur. Mais c'était très nettement de la curiosité. Moi, je me rappelle, j'avais quelque chose que nous, on pourrait considérer comme malsain. Parce que ferait ça à un âge différent, ce serait gênant. Mais à cet âge-là, non, parce que c'est plus de la curiosité qu'autre chose et tout ça. Moi, j'étais rentré, parce que chez ma soeur, c'est comme ça. On rentrait, et puis c'est tout. Et puis, il faisait ça. Alors, il m'a regardé. Je l'ai regardé. Bon, voilà. Et puis on a parlé d'autre chose. Il a arrêté forcément. Il a arrêté. Mais si je réagis mal en disant, mais c'est dégueulasse, mais c'est ignoble, mais c'est sale, mais c'est pervers, etc. C'est vrai que quelque part il y a une anomalie, hein, puisque. Mais attention, ça vient pas de lui. Mais il n'est pas innocent non plus. Donc, on ne dit rien. On ne dit pas c'est bien, parce qu'il n'est pas innocent, et il sait très bien. Donc, on ne dit rien. Mais, on ne va pas s'angoisser, on ne va pas l'angoisser, on ne va pas s'affoler. On va dire, il faut absolument qu'il aille voir un psychologue, il commence déjà à être complètement déjà là. Non, on va pas le faire qu'il se laisse piéger, on ne va pas rentrer dans le piège, si vous voulez, qui rentre dans notre propre perversion à nous. Vous voyez ? Et puis, on va retrouver un climat, on va comprendre qu'il y a un manque spirituel. Donc, on va parler bien sûr de Dieu, on va parler de Jésus, on va parler de Marie. Si on est chrétien, c'est normal. Enfin, la prière, on va demander. Et puis, on va parler du papa et de la maman, ça c'est normal. On va parler de notre propre papa, notre propre maman à table. Tiens, pourquoi pas ? Grand-père, la grand-mère. Il y a plein de petites histoires qui sont très bien et qui fait que, bon, l'oncle, en Afrique, lorsque le papa est absent, il y a automatiquement, systématiquement, le remplacement par l'oncle. Ce qu'on n'a pas en Occident, vous voyez ? Maintenant, si vous disiez hier, les mères célibataires, c'est ça ? Il n'y a pas de remplacement. C'est-à-dire, en Afrique, ça n'existe pas. Vous ne verrez jamais de phénomène homophile en Afrique. Hein. Ça n'existe pas. C'est un phénomène occidental, ça. C'est un phénomène... Pourquoi ? Parce qu'il y a une paternité qui est toujours présente, vous voyez ? Et toujours, toujours présente. Dans des sociétés naturelles comme l'Afrique. Et si on réagit par l'angoisse, si on ne le laisse pas la possibilité de pouvoir s'identifier à son père ou au pape, enfin j'en sais rien, enfin vous voyez, il y a plein de possibilités hein, de pour lui de retrouver son identité, mais c'est pour ça, mais il faut d'abord le présenter, montrer qu'on aime quelqu'un avec qui il peut s'identifier. Alors, s'il n'y a pas ça, et bien, il va s'angoisser, ça c'est trop, et il va se laisser piéger du coup par le voisin qui est plus âgé, par le cousin qui est plus âgé, par l'oncle aussi qui est pervers, pédophile, par... comprenez, c'est le petit garçon. Et l'oncle qui est pervers, pédophile, il repère tout de suite hein, le gosse qui... Ne s'inquiétez pas. Hein. Et il en profite. Alors, vous voyez, il y a des choses qui s'accentuent à ce moment-là. Oui, parce que c'est quand même pas rare. Hein. C'est les statistiques qui montrent qu'il y a un enfant sur sept en France qui est victime d'agression sexuelle à cet âge-là. Avant l'âge de 10 ans. Un enfant sur sept, ça fait beaucoup, je trouve. Hein. Oui, d'accord. Il faut arrêter absolument parce que c'est l'heure de la messe. Oui, mais je m'excuse, j'avance pas vite. Donc si on a une mauvaise phase ici d'identification au père ou à la mère, plus tard l'adolescent ira jusqu'à la non-acceptation des règles, à la non-acceptation des règles dans ce domaine, et plus tard même à la non-acceptation, bien sûr, de la maternité et de la paternité. Je ne veux pas de gosse. Et c'est pour ça que ça va donner, évidemment, une société homophile et une société abortive, ça va exactement dans l'air. C'est exactement la même chose. L'un ne va pas sans l'autre. Et pour le garçon, donc, il va y avoir un problème immédiatement qui va se poser, c'est là qu'il va y avoir donc les habitudes masturbatoires qui vont apparaître, les déviances sexuelles de toutes sortes. Voilà ce qui apparaîtra plus tard, et il aura beaucoup de mal à se débarrasser de ça. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre à retrouver l'état d'enfance dans lequel qu'on a si mal vécu, retrouver spirituellement, psychologiquement, anamnésiquement cet état d'enfance, le retrouver, le réengendrer dans notre corps et se laisser réengendrer comme un enfant qui accepte d'être fils, qui accepte d'être fille, qui accepte d'être fier de son père, fier de sa mère. Vous voyez ? Et retrouver donc des expériences d'amitié analogiques pour pouvoir revivre ça. Spirituellement, l'esprit d'enfance a quelque chose de très important de ce point de vue-là. Mais ça, c'est un petit peu notre sujet, mais je ne peux pas trop aborder. C'est que je donne les structures, les petits problèmes qui se posent pour l'apparition d'identité, mais la thérapie, c'est encore autre chose, et la guérison spirituelle, c'est autre chose. Mais vous sentez quand même que si nous vivons vraiment dans le désir de retrouver cette enfance, de redevenir petit enfant, ce qui est possible et corporellement, et psychologiquement, et spirituellement, par la voie surnaturelle, parce que plus on se rapproche de la maternité divine de Dieu, de la grâce surnaturelle, de la paternité divine, de la très sainte Trinité, plus on s'en rapproche, plus notre corps, vous voyez, évolue dans la direction de la petite enfance. C'est progressivement. Plus l'union transformante transforme la pâte humaine, plus spirituellement on devient petit enfant. La perfection des saints, c'est quand ils reviennent, par le point de vue surnaturel, à l'état embryonnaire. Et lorsqu'on rentre dans l'union simple, c'est quand on revient à l'état d'enfance ici, de l'âge de 7-8 ans. La fameuse union sainte des quatrièmes demeures, c'est là. Et notre corps, à ce moment-là, se repose, se régénère dans ces oraisons-là, vous voyez, dans les bras de Dieu, dans les bras de Jésus, dans les bras du Père, dans les bras de l'Esprit, dans l'océan de l'Esprit-Saint, dans la saveur des dons, dans les bras de Marie, enfin, peu importe, selon les... Dans la vie contemplative, retrouver cette contemplation limpide et libre, Et petit à petit, les fils qui sont à nos pattes sont coupés, jusque dans le point de vue du corps, du point de vue psychologique, de l'âme, du point de vue spirituel. Et ça, c'est pour que la sainteté puisse transformer la patte humaine. À ce moment-là, quand on revient dans les actes de la responsabilité familiale et sociale, dans les actes dans le monde, ben, alors là, on est à nouveau, l'adulte peut grandir. Vous voyez, le saint peut apparaître. Le père de tous les hommes peut être là. L'homme en blanc peut se lever et réconforter le monde. Mais s'il traîne encore toutes les blessures de son enfance et tous ses manques de confiance, non. Pour ça, la vie spirituelle est très importante pour retrouver cette guérison et cet esprit d'enfance par l'oraison, par l'union totale avec le Père, par l'union transformante. C'est pas pour redevenir petit enfant, c'est pour être pleinement soi-même. Parce qu'on ne l'est pas soi-même, parce qu'on en a été empêché, vous voyez bien, par tous ces trucs-là. On a tous eu ces trucs-là. Allez.